RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui au Brésil. Alors que la COP22, la conférence climat, est en cours à Marrakech pour concrétiser les engagements pris à Paris l'an dernier pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, le Brésil avait signé cet accord de Paris. Le pays fait partie des 10 premiers pays au monde émetteurs de gaz à effet de serre. Il possède la forêt vierge la plus grande de la planète, l'Amazonie. Le Brésil s'est engagé à lutter contre le réchauffement climatique. Ses promesses sont ambitieuses, mais alors arrivera-t-il à les respecter? Arrivera-t-il à enrayer la déforestation qui a repris et à limiter ses émissions de gaz à effet de serre alors qu'elles ne cessent d'augmenter? De l'Amazonie à Brasilia en passant par Rio de Janeiro, grand reportage au Brésil sur la route du changement climatique, signé François Cardona.
Il est 6h du matin. Sur le bord du fleuve Amazone, une équipe de scientifiques se prépare à partir en expédition. Plus de 3 heures de navigation les attend pour pénétrer au plus profond de la forêt vierge. Ils vont rejoindre ATO, la plus haute tour d'observation au monde, un bijou de haute technologie au service de l'étude du climat et de l'environnement, au cœur de l'Amazonie. Isolée au milieu de la jungle, elle n'est accessible qu'en bateau. Antonio Manzi, le coordinateur du projet, est l'un des climatologues les plus réputés du Brésil. Il est professeur à l'Institut brésilien de recherche sur l'Amazonie.
Nous avons choisi cet emplacement car où que vous alliez ici, au nord, à l'est, au sud, dans toute la région, il y a d'immenses forêts qui ont été très peu affectées par l'activité humaine. Ici, nous sommes dans une réserve protégée d'Amazonie qui appartient à l'État. Nous avons donc certaines garanties qu'il n'y aura pas de déforestation. Et comme notre projet doit durer 30 ans, c'est très important pour nous d'être sûr qu'il n'y aura pas de déforestation dans le futur.
Perspectiva de haver desmatamentos em grande escala fosse pequena, né?
Pour se rendre sur place, il va leur falloir plus de 5 heures de voyage, en bateau d'abord, puis en véhicule tout-terrain, sur des pistes au plus profond de la jungle, par plus de 35 degrés et un taux d'humidité de 80%. Et enfin la tour, immense, apparaît. Tenue par d'immenses câbles, elle se dresse bien au-dessus de la cime des arbres. Pour se rendre au sommet, plus de 1000 marches à gravir, presque une heure de montée. Avec ses 325 mètres de haut, ATO est plus grande que la tour Eiffel. 140 tonnes d'acier au milieu de la forêt pour tenter de mieux comprendre le réchauffement climatique, là où l'air est le plus pur au monde. Cette tour aura coûté plus de 8 millions d'euros, mais elle va permettre aux scientifiques du monde entier d'avoir un nouveau regard sur la forêt amazonienne, une perspective exceptionnelle sur l'un des poumons de notre planète.
Voici notre océan vert. De tous les côtés, à perte de vue, il n'y a que de la forêt. Regardez comme elle est belle. La cime des arbres a des couleurs tellement différentes. J'adore cet endroit. Et ce que nous allons étudier ici va intéresser le monde entier. Tout d'abord parce que nous allons enfin connaître avec précision quel est le rôle véritable de la forêt amazonienne dans le bilan carbone de notre planète. Nous allons savoir combien de gaz carbonique la forêt absorbe et retire de l'atmosphère et combien elle en émet. La forêt
está retirando de gaz carbonique de l'atmosphère. Éventuellement émettant.
Grâce à la tour, nous allons aussi améliorer de façon significative tous les modèles de prévision météorologique, de qualité de l'air, de pollution et même du climat de demain. Nos recherches intéressent le monde entier et en premier lieu le Brésil. C'est un jalon important dans l'histoire. C'est la première tour de ce genre dans le monde, avec la possibilité de faire des mesures inédites. Cet endroit est en train de devenir un laboratoire mondial pour les forêts tropicales. Maintenant, je n'arrête pas de recevoir des requêtes de chercheurs du monde entier qui me demandent de venir ici pour travailler avec nous. Pour moi, c'est mon plus grand rêve qui est en train de se réaliser.
À quelques centaines de mètres de la tour, quelques bâtiments accueillent une vingtaine de chercheurs qui vivent en permanence sur cette base scientifique isolée du monde. Ils dorment dans des hamacs. Mike est venu d'Angleterre, il est arboriste. Sa spécialité, l'analyse du feuillage tout en haut des arbres, dans la canopée.
C'est génial d'être de retour. Je me sens presque à la maison maintenant, c'est chouette. Ça fait 2 ans que je viens ici régulièrement et maintenant je me suis habitué aux conditions de vie. Très peu de gens ont la chance de vivre une telle expérience. Et moi en plus j'ai le privilège de travailler dans la canopée, tout en haut des arbres. Je vois des choses que personne d'autre ne peut voir. Alors quand je reviens chez moi en Angleterre, mes amis sont jaloux. Ils me disent « Mais comment t'as fait pour arriver là ?» Je crois que j'ai eu beaucoup de chance.
Pendant les 30 prochaines années, ces scientifiques aventuriers vont analyser les interactions entre la cime des arbres, la canopée et l'atmosphère, alors que le réchauffement climatique et la déforestation menacent la plus grande forêt tropicale au monde.
Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro.
C'était le 12 septembre dernier, à Brasilia, la capitale. Au Planalto, le palais présidentiel, la cérémonie de signature de la ratification de l'accord de Paris vient de commencer. Michel Temer, le chef de l'État, qui a remplacé la présidente Dilma Rousseff, destituée quelques semaines plus tôt, a voulu marquer les esprits.
Je suis né dans la région de São Paulo. Et là où j'habitais, le fleuve Tietê passait tout près. Alors que souvent, quand j'avais 8 ou 9 ans, je prenais une serviette et j'allais nager dans les eaux cristallines, limpides. Mais aujourd'hui, quand je reviens là-bas, malheureusement, je ne peux que me rappeler du passé, de ces beaux jours. Car aujourd'hui, il est impossible d'aller se baigner dans ce fleuve qui est totalement pollué, contaminé. Alors je veux vous dire que mon gouvernement est mobilisé. Et l'accord que nous signons aujourd'hui ne prend pas seulement demain en considération, mais plutôt notre futur à tous, pour que nos conditions de vie soient préservées, ainsi que l'environnement. Tout sera mis en œuvre pour que l'économie de notre pays en profite. Aujourd'hui, je vous le dis, est un grand jour. Je vais sortir d'ici en me disant que nous avons tous fait une belle action, un beau geste de gouvernement. Alors continuons ainsi.
Lors de l'accord de Paris, le Brésil a voulu se présenter en modèle. Il a promis de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 37% d'ici à 2025 et arriver à une réduction de 43% en 2030. Le pays s'est également engagé à éliminer la déforestation d'ici 2030. Des promesses fortes, mais qui risquent de ne pas être respectées. Après avoir réussi à enrayer la déforestation durant les années 2000 grâce à de lourdes amendes financières, ces dernières années, la déforestation a repris massivement. Elle a même augmenté de 25% en 2015 par rapport à 2014. Et les émissions de gaz à effet de serre produites par le Brésil ont augmenté elles aussi de 3,5%. C'est le résultat de recherches approfondies menées par un tout nouveau système d'analyse de gaz à effet de serre lancé il y a 4 ans à peine au Brésil, le SEG. Ce matin à Rio de Janeiro, Tasso Azevedo, le coordinateur du SEG, monte sur la tribune de l'amphithéâtre, située au bord de la baie. Il est venu annoncer ses mauvaises nouvelles à la communauté scientifique brésilienne, rassemblée en séminaire exceptionnel.
Cette base de données publique ouverte à tous, c'est certainement la plus grande au monde en ce qui concerne les gaz à effet de serre, avec des données solides, de référence, et c'est une première mondiale.
Grâce à ce nouveau système d'observation, les scientifiques peuvent affirmer avec certitude qu'en 2015, le Brésil a émis plus d'1,9 milliard de tonnes de CO2, 100 millions de tonnes de plus qu'en 2014, alors même que le pays subit une grave crise économique qui a fortement ralenti l'activité industrielle. Alors Tasso Azevedo est inquiet. Ambitieux lors de l'accord de Paris, le Brésil se retrouve aujourd'hui confronté à de profondes contradictions.
Nous avons remarqué que pour le Brésil, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué durant les années 2000 de manière importante. À partir de 2010, ces émissions sont restées stables, avec tout de même 1,8 milliard de tonnes par an, ce qui place le Brésil à la 7e place parmi les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre de la planète. Et l'année dernière, à cause de la déforestation en Amazonie, la situation a commencé à empirer de nouveau. Le Brésil a promis qu'il allait réduire ses émissions de gaz. Cependant, vu la tendance actuelle, on est en train de s'en éloigner. Il y a urgence, il faut corriger cela, réduire la déforestation et arriver un jour à l'éradiquer. C'est ce dont le Brésil a besoin. Si on arrête de couper la forêt, les arbres vont faire leur travail, absorber le carbone de l'atmosphère. Et cela viendra naturellement compenser les émissions de gaz du Brésil. C'est pour cela qu'il est vital que notre pays en finisse avec la déforestation.
As emissões dos outros setores. Então, fundamental para o Brasil zerar o desmatamento.
En 2005, la déforestation était la principale source d'émissions de gaz du Brésil, environ près de 65% du volume total. Mais aujourd'hui, c'est l'agriculture qui est passée en tête. Marina Piatto est chercheuse à l'IMAFLORA, l'Institut pour la gestion et la certification de l'agriculture et de la forêt. Elle est venue assister à cette conférence. Elle est sceptique sur les chances du Brésil de respecter ses promesses sur le climat.
Le Brésil est toujours en train de s'imposer des engagements très ambitieux, avec des politiques publiques très bien écrites. Mais quand vient le moment de la planification et de la mise en place, il y a toujours du retard et un manque de stratégie. Si le Brésil voulait vraiment s'attaquer à l'agriculture pour aider à réduire ses émissions de gaz, alors sa priorité devrait être de recycler les pâturages dégradés. Aujourd'hui, nous avons entre 60 et 70 millions d'hectares de pâturages non utilisés dans le pays. C'est presque la taille de l'Espagne. C'est énorme. Et ces terres émettent du carbone. Les sols pourrissent, la matière organique, quand elle se décompose, émet des gaz à effet de serre. Aujourd'hui, nous avons une agriculture très inefficace. Il nous faut augmenter l'efficience pour l'élevage de bovins, car le Brésil est l'un des plus grands exportateurs de viande de bœuf au monde, de manière à réduire à grande échelle les émissions de gaz de ce secteur. L'agriculture est responsable aujourd'hui de 15% des émissions de gaz à effet de serre de tout le Brésil.
Pour cette chercheuse engagée, le gouvernement brésilien a très peu investi jusqu'à présent pour moderniser les pratiques agricoles. Le plan national pour la réduction de la quantité de carbone émise par l'agriculture, lancé par le Brésil en 2010, ne reçoit que 2% des ressources publiques dédiées à l'agriculture. Les promesses brésiliennes de l'accord de Paris semblent en décalage avec la réalité. C'est l'avis de Marina Piatto.
En s'engageant avec de telles promesses, nous avons donné l'exemple au monde entier. Un geste fort a été fait à Paris. L'accord a été signé, des promesses ont été lancées. Maintenant, il faut que l'on montre comment on va mettre tout ça en place. Et on se demande comment on va faire pour respecter les engagements. Qui va financer les projets? Le message a été très positif, mais maintenant on fait quoi? C'est la grande question.
À peine signé, que déjà l'accord de Paris sur le climat provoque l'inquiétude de la communauté scientifique brésilienne. Comment le pays va-t-il arriver à respecter ses promesses? À quelques kilomètres de là, dans la banlieue de Rio, d'immenses photos satellites s'empilent dans tous les coins du large bureau d'Aaron Martins. Sur les écrans de ses ordinateurs, des cartes extrêmement précises montrent les zones affectées par le déboisement illégal. Dans les États amazoniens du Pará, du Rondônia, de vastes zones de forêt vierge disparaissent tous les mois. Sur les photos satellites que le chercheur étudie à la loupe, des carrés de terre déboisés apparaissent chaque jour au milieu de l'océan vert.
Ce que l'on voit, c'est que la déforestation a lieu dans des endroits très spécifiques d'Amazonie. C'est du déboisement spéculatif. Certaines personnes déforestent pour ensuite espérer obtenir un droit de propriété sur ces terres. Et cela doit être combattu avec beaucoup d'énergie. Oui, la déforestation a diminué, surtout dans les années 2000. Cependant, les 3 ou 4 dernières années, il y a eu un renversement à cause de plusieurs problèmes, comme la réduction des zones protégées, qui sont vitales pour limiter la déforestation dans ces zones clés de la forêt, et ainsi limiter les émissions de gaz à effet de serre. Seulement, un grand nombre de zones protégées ont été réduites, notamment pour permettre la construction de barrages hydroélectriques en Amazonie, comme sur le fleuve Tapajós. Il faudrait que les municipalités soient mieux préparées et financées pour lutter contre ce phénomène, car le gouvernement fédéral n'a souvent même pas les moyens nécessaires pour arriver dans ces lieux très éloignés.
Pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre lors de la signature de l'accord de Paris, le Brésil a annoncé qu'il allait augmenter la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique. Pour cela, le Brésil peut compter sur un vent fort. Il a décidé de miser sur l'éolien dans le nord-est du pays. Robert Klein, le directeur de Voltalia au Brésil, s'en frotte les mains. Son entreprise française, spécialisée dans l'éolien, a senti le potentiel dès le milieu des années 2000.
Le Brésil est un pays grand, je vous rappelle, c'est environ 15 fois la France, 15 fois la taille de la France. Et en plus de cela, une partie du Brésil est vraiment propice au développement des énergies éoliennes, étant donné qu'il concentre un vent qui est parmi les meilleurs vents au monde, notamment les Alizés, dans le nord-est du Brésil, là où Voltalia est surtout implantée. Pendant 50% du temps dans l'année, eh bien, nous produisons à pleine puissance, ce qui est quand même énorme. Il y a très peu de pays qui possèdent ces caractéristiques très favorables.
Le Brésil peut se transformer en modèle.
Complètement, je dirais que c'est déjà un modèle. C'est déjà un modèle en termes d'achat d'électricité. On a parmi les prix les plus compétitifs au monde. C'est un modèle en termes de potentiel d'éolien. C'est aux alentours de 300 gigawatts au Brésil de potentiel. Le Brésil a déjà installé 10 gigawatts, c'est-à-dire qu'on est parmi les 10 premières puissances en termes de centrales éoliennes. Très probablement, en partir de 2020, le Brésil sera à la 6e place dans le monde. Vous avez vu, il a commencé seulement en 2009 et sera en 2020 déjà à la 6e place. Aujourd'hui, on est déjà à la 10e place. Alors que des pays en Europe ou aux États-Unis ont commencé au début des années 2000. Le Brésil a commencé 10 ans en retard et a pratiquement rattrapé tout ce retard. Étant donné l'espace, le vent, la demande, les prix compétitifs, tout cela vont faire que le Brésil va continuer sur cette trajectoire de devenir une des plus grandes puissances en termes de capacité installée d'éoliennes et très probablement de solaire, puisque le solaire commence à peine au Brésil. Le Brésil est une terre d'expérimentation et une terre d'espoir sur la nouvelle manière de produire de l'électricité dans le monde.
L'énergie éolienne pourtant ne semble pas être la priorité numéro un des autorités brésiliennes. Les sécheresses à répétition qui ont frappé le pays ces dernières années ont conduit le Brésil à augmenter l'utilisation d'usines thermoélectriques à gaz et au charbon. À tel point que l'organisation Greenpeace vient de lancer une campagne « Non au charbon » pour s'opposer à une loi votée par le Parlement brésilien fin octobre qui permettrait le déblocage de 5 milliards de dollars en faveur de l'industrie du charbon, en contradiction avec ses engagements climatiques. Carlos Rittel, le secrétaire général de l'Observatoire du climat, condamne cette initiative parlementaire. Son organisation réunit une quarantaine d'associations de la société civile brésilienne mobilisées contre le changement climatique.
Il y a de véritables contradictions entre la ratification de l'accord de Paris et l'augmentation de la déforestation ou des tentatives pour assouplir les règles de protection de l'environnement. Il y a aussi des propositions en cours d'examen au Parlement pour autoriser les véhicules diesel dans le pays, sans compter la volonté de construire de nouvelles usines fonctionnant au charbon entre 2023 et 2027. Et ce sont des propositions qui reçoivent de nombreux soutiens au Parlement, mais aussi de la part du gouvernement.
Alors le Brésil arrivera-t-il à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et à tenir ses promesses lancées lors de l'accord de Paris? Rien de moins sûr, selon Carlos Rittel, pour qui le changement doit venir du plus haut niveau avec une très forte volonté politique.
Les efforts entrepris par le Brésil sont insuffisants pour que notre pays arrive à remplir son rôle dans le cadre de l'accord de Paris afin de limiter le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés ou mieux encore d'un degré et demi. Il faudrait que l'ambition de nos politiques soit bien plus grande. Ils doivent faire davantage. Le Brésil a dit qu'il allait éliminer la déforestation illégale en Amazonie en 2030 pour arriver à réduire ainsi ses émissions de carbone. Mais cette déclaration, c'est en réalité une annonce au monde entier disant que la loi ici ne sera appliquée que d'ici 15 ans, car la déforestation est déjà illégale. C'est une tolérance qui va permettre de continuer de détruire la forêt durant encore 15 ans au moins. On doit donc faire beaucoup mieux que cela. Les zones de pâturage dégradées, non utilisées ou très peu productives pour les troupeaux sont immenses, tellement immenses qu'elles pourraient permettre aujourd'hui de produire suffisamment d'aliments pour satisfaire la demande interne et en exporter, et ainsi d'éviter de couper un seul arbre durant les 15 prochaines années au moins.
La forêt amazonienne pourra-t-elle compenser les effets du réchauffement climatique planétaire et absorber les gaz carboniques que nous rejetons alors que sa surface ne cesse de diminuer? Le Brésil porte aujourd'hui une lourde responsabilité dans le climat de demain. Le temps presse. Le Brésil doit désormais prouver au reste du monde qu'il sera à la hauteur de ses promesses. Climat, carbone et déforestation, les défis du Brésil. Un grand reportage de François Cardona, réalisation Ludivine Amado.
Si loin, si proche.